Jérôme Ferrari, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez donc À son image chez Actes Sud dans cette rentrée abondante 2018. Et il y a tout d'abord ce personnage d'Antonia, absolument bouleversant, profond, très attachant. Et il me semble que c'est la première fois que vous mettez au cœur de l'un de vos livres une femme. Est-ce que, je ne sais pas, c'était une nécessité chez vous, Jérôme Ferrari ?
Ben, en tout cas, c'était quelque chose d'absolument spontané. Quand j'ai eu le projet du roman, et je savais que le protagoniste serait photographe et je savais aussi que ce serait une femme. Et je ne sais pas d'où s'est imposée cette nécessité, mais c'était vraiment, ça faisait partie du projet initial du roman. Alors pourquoi ? J'en sais rigoureusement rien, d'autant que ça ne facilite pas vraiment la tâche.
se glisser dans la peau d'Antonia.
Ça nécessite. Mais peut-être que c'est ça aussi que je cherchais. Hein. J'ai toujours pensé que écrire, c'était aussi faire une espèce d'expérience de l'altérité, de sortir de soi. Et peut-être que ça vient de là.
Et alors, donc il y a cette pulsion qui vous porte vers ce personnage féminin. Et ensuite, il faut le façonner. D'où vient-elle ? Et comment l'avez-vous, en quelque sorte, fait naître cette Antonia ?
Alors, moi, je ne peux jamais commencer à écrire tant que les personnages restent dans une espèce de brume d'abstraction. Donc, j'ai le travail préparatoire qui est pour chez moi le plus long. Hein, c'est beaucoup plus long que l'écriture en elle-même. Ça consiste à faire acquérir mes personnages une certaine densité, une chair. Et pour moi, le processus, c'est simplement en imaginant son entourage et sa vie. Donc, faisait aussi partie du projet initial du roman la présence de son oncle,
oui,
le prêtre.
On va y revenir.
Et après, je lui ai imaginé un parcours. Je savais aussi dès le départ qu'elle irait à un moment ou à un autre en Yougoslavie. Et bon, étant donné la période que j'ai choisie, il se trouve que c'est aussi la période des scissions dans le nationalisme. Et donc, je l'ai placée dans le milieu nationaliste en la mettant en scène comme ça. C'est comme ça qu'elle a acquis, au moins dans mon esprit, une certaine densité charnelle.
Alors, on va revenir sur tous ces points que vous venez de mentionner. Mais d'abord, sur la construction du roman. Donc, on va comme ça dérouler le fil de sa vie, le temps de sa messe de funérailles. La religion, les rituels, notamment de la religion chrétienne, sont toujours assez présents dans vos livres. On se souvient évidemment du Goncourt. En quoi est-ce que ça intéresse l'écrivain que vous êtes ?
C'est peut-être encore une sorte de mystère à mes propres yeux, mais je crois que, parce que je ne suis pas particulièrement croyant, pour ne pas dire pas du tout.
Vous êtes peut-être nourri malgré tout de cette culture religieuse.
Certainement, et j'ai toujours eu un attrait pour la solennité du rituel. Or, il se trouve que, peut-être en Corse plus qu'ailleurs, les messes de funérailles sont vraiment un moment socialement important, avec beaucoup de monde, des chants qui, pour moi, sans chauvinisme aucun, sont vraiment le joyau de notre patrimoine culturel, les polyphonies qui sont élaborées dans les villages du nord de la Corse et qui, pour chanter la messe, sont vraiment, vraiment magnifiques. Et peut-être que j'y suis d'abord venu par émotion esthétique. Et c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Hein. Quand j'étais beaucoup plus jeune et que ma voix n'était pas à ce point, comment dire, transformée par
le tabac,
entre autres, je chantais beaucoup de messes en polyphonie. J'avais appris et j'adorais ça. Et maintenant, je me contente de les entendre et j'adore toujours ça.
Et puis donc, il y a en effet cette espèce de mise en scène qui est aussi celle que doit utiliser, à laquelle a recours un romancier lorsqu'il construit, il façonne son livre.
Oui, mais un romancier façonne son livre avec plus de liberté. c'est pas l'essentiel du rituel, c'est que tout est écrit à l'avance et prescrit. en quelque sorte.
Mais alors pourquoi justement vous aimez vous soumettre à ce cadre qui pourrait apparaître aussi comme un carcan ? Là, en l'occurrence, donc, cette messe avec le découpage habituel, traditionnel d'une messe de funérailles.
C'est aussi comme ça que j'ai pensé le personnage du prêtre, parce que le personnage du prêtre est quelqu'un qui croit beaucoup dans la vertu du rituel pour porter la peine du deuil et qui croit pas du tout à l'expression spontanée de l'émotion, au souvenir personnel. Il pense qu'on rend hommage davantage aux défunts par un rituel essentiellement social que par l'expression intime de sa douleur, chose que, figurez-vous, je ne suis pas loin de penser moi aussi.
Alors ce personnage de prêtre est à la fois en même temps le parrain d'Antonia, il est absolument formidable. Et puis alors c'est lui l'instrument du destin en quelque sorte, puisqu'il est le parrain, voilà, il porte Antonia sur les fonts baptismaux. Ensuite c'est lui qui va offrir à Antonia son premier appareil photo, qui va donc décider de sa vie, de son destin. Et puis entre temps il est devenu prêtre, il a eu son chemin, son propre chemin de Damas, et c'est lui qui va prononcer cette messe de funérailles. Quel magnifique personnage.
Ouais, merci. Là aussi, c'était... Alors, j'avais déjà placé quelques personnages de prêtres en périphérie, mais là aussi, ça m'intéressait beaucoup d'essayer d'en faire un personnage principal. Je ne sais pas, c'était peut-être que j'ai trop été influencé par ma lecture de Bernanos. En tout cas, c'est quelque chose qui, au lieu de m'influencer, aurait pu m'arrêter dans le projet. Mais c'était quelque chose que j'avais très envie de faire, et peut-être aussi pour des raisons d'étrangeté. J'ai essayé, sincèrement, de rendre justice à une expérience qui n'est pas la mienne et qui est celle de la foi. Et de traiter ça, voilà, avec, je l'espère, honnêteté et sans jugement et sans dérision aucune. Hein. C'était pas du tout le principe. Et spécialement dans ce qui m'intéressait, c'était les défaillances de la foi, parce qu'il défaille beaucoup quand même dans le roman.
Et y compris pendant cette messe de funérailles, où on voit que même si on est porté par la foi, eh bien évidemment, ça n'empêche pas le chagrin et la douleur.
Ça n'empêche pas le chagrin et la douleur, ce qui est un paradoxe qui m'a toujours beaucoup fasciné et qui est présent dans les évangiles même, hein, puisque juste avant de ressusciter Lazare, le Christ fond en larmes.
Ouais. Et ben là, justement, aussi, pendant cette messe de funérailles, il y a cette espèce d'acmé où, à un moment donné, ben ce prêtre, malgré les rituels, malgré sa foi, est submergé par l'émotion.
Oui, alors il accepte de célébrer la messe de funérailles parce que sa sœur, donc la mère d'Antonia, l'y contraint plus ou moins. Mais son premier projet, c'est de s'en tenir au rituel tout pur et de se conduire en prêtre et pas en proche. Et ce projet, il n'arrive pas à le mener à bien, puisqu'il faut bien qu'il prononce une homélie. Il finit, après avoir fait une homélie interminable qui assomme tout le monde, par livrer ses propres sentiments.
L'humanité, enfin voilà, elle est très très extrêmement présente dans ce livre, et c'est ce qui en fait sans doute peut-être votre livre le plus touchant, le plus bouleversant. Vous avez été débordé par cet humanisme là qu'il y a dans ce livre, ou au contraire c'était un projet tout à fait voulu, maîtrisé?
Non, il y a quand on est heureusement, quand on passe à la phase d'écriture, il y a des tas de choses qui sont pas pensées au préalable, sinon ce serait bien ennuyeux d'écrire si on se contentait de recopier quelque chose qu'on avait déjà tout fait dans la tête. Il y a le texte, quand on l'écrit, bah il amène ses surprises et il impose une sorte de nécessité propre. Et les mouvements d'humanisme et de bienveillance qu'il y a dedans sont venus en cours d'écriture.
Et alors, c'est quand même assez courageux aujourd'hui de faire d'un prêtre l'un des personnages majeurs d'un roman, non ? Parce que, bon... Ça n'est plus, on pourrait penser que ça n'est plus très à la mode aujourd'hui.
Non.
Dans cette époque où l'Église catholique en particulier est tellement décriée, cette corporation de prêtres.
Non, mais il n'y a pas que les sujets à la mode qui sont intéressants.
Certes.
Donc oui, bah c'était pas j'ai pas du tout pensé en ces termes-là. Et puis le recul de la foi et du catholicisme comme pratique sociale est aussi un sujet du roman, et une transformation de la spiritualité en coaching. Je ne suis pas nostalgique de la grande époque de l'Église catholique, mais je n'aime pas beaucoup le coaching.
Et alors, il y a aussi cette autre scène très forte, donc je le disais tout à l'heure, ce prêtre rencontre son chemin de Damas, il y a cette révélation.
Alors, oui, il a une espèce de révélation un peu surnaturelle, il passe devant la maison du prêtre du village, il voit la lumière allumée, et il pense tout de suite que le prêtre est mort et qu'il va devoir le remplacer, alors qu'il n'est absolument pas versé dans la pratique religieuse et peut-être même pas dans la foi. Alors là, l'honnêteté m'oblige à dire que j'ai pas du tout inventé l'anecdote, mais c'est un de mes amis et collègues de philosophie, Jean-Bernard Florès, et il a un grand-oncle qui était prêtre et qui lui a raconté qu'il était devenu prêtre comme ça. Voilà, à un âge assez bon, il avait une trentaine d'années, et moi j'ai trouvé l'anecdote tellement frappante, même si on peut y croire ou pas, que j'ai demandé à Jean-Bernard la permission de lui voler son histoire et de l'utiliser dans le roman.
Ça ne surprend pas vraiment, parce que finalement, tout ce qui paraît toujours inouï dans un roman, c'est souvent ce qui est le plus proche du réel. Le réel a parfois plus de talent que le romancier lui-même. Alors, ce livre, évidemment, c'est aussi une réflexion sur la photographie. À la fois, c'est ce qui est très intéressant, son pouvoir, sa puissance, mais surtout ses limites.
Moi, j'ai toujours été aussi très, très intéressé, puis d'abord parce que c'est mon métier de romancier qui veut ça, par les problèmes éthiques posés par la représentation, même la représentation littéraire. Alors évidemment, avec la photographie, ces problèmes, ils prennent vraiment une acuité toute particulière. Et notamment pour une partie de la photographie qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire le photoreportage de guerre.
De guerre,
ouais. Qu'est-ce qu'on montre, comment on cadre, quelle est la part d'esthétique qu'on doit ou doit pas laisser dans une image. C'est des problèmes vraiment, vraiment fondamentaux qui, à mon sens, peuvent pas trouver de solution de principe. Et qui, certainement, je suppose, se pose à chaque fois qu'on doit déclencher l'obturateur. Et puis, l'autre question qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi sur cette utilité de la photo de guerre et de la représentation, puisque, surtout, on vit à une époque où on est plus ou moins submergé d'images de ce genre, et j'ai pas l'impression qu'elles aient une efficacité, ou l'efficacité qu'elles ont pu avoir dans les années 70, par exemple, dans l'opinion publique.
Et la guerre du Vietnam.
Voilà, par exemple, au moment de la guerre du Vietnam. Ouais. Et qu'on en reste un peu à une fonction qui est de susciter une espèce d'émotion profonde, mais très, très éphémère. Je m'inclus là-dedans, hein, bien évidemment. Moi aussi, je suis ému 5 minutes, et puis je finis par penser à autre chose.
Et alors quoi, on renonce ?
Non, mais c'est ce que penserait Antonia, mon personnage, mais c'est pas du tout ce que je pense moi. Je pense que la photo, au moins, elle atteste que quelque chose a eu lieu comme ça, et que même si ça n'a pas une efficacité immédiate, c'est un rôle absolument irremplaçable.
Il n'y avait au fond que deux catégories de photos professionnelles, celles qui n'auraient pas dû exister et celles qui méritaient de disparaître, si bien que l'existence de la photographie était évidemment injustifiable. Voilà. Donc on a compris que ça n'était pas votre pensée.
Non, ça c'est la porie dans laquelle arrive Antonia, mais je comprends qu'on puisse défendre cette position-là.
Mais alors, ça rend encore justement ce personnage d'Antonia encore plus bouleversant, parce que finalement, ça signifie l'échec de toute une vie, la sienne, en tout cas d'une vie professionnelle.
Oui, j'ai peut-être une tendance assez obsessionnelle à décrire des échecs. Mais, oui, on peut dire
mais
ça comme ça.
C'est peut-être ça qui fait de la bonne littérature, non ? L'échec plus que la réussite.
Bah, sans doute, c'est peut-être plus facile à traiter, l'échec. En tout cas, je dois confesser que c'est un peu ce que je fais. Oui.
Cet intérêt chez vous pour l'image, la photographie, est-ce qu'il y a des causes peut-être plus intimes, plus personnelles,
alors, bon,
ou elles sont purement philosophiques et littéraires.
Ah non. De toute façon, même au niveau de la philosophie, je pense qu'on ne saisit intellectuellement un problème philosophique quand il appartient aussi au monde de la sensation et du ressenti. Sinon c'est des mots croisés, quoi. C'est pas très intéressant. Moi, j'ai toujours été très touché par les photos de famille, et en ce qui concerne photos de reportage, j'ai mon premier contact vraiment conscient avec, c'est quand j'ai vu dans les années 90 la photo très très connue de Ron Aviv, où on voit un paramilitaire serbe des Tigres d'Arkane donner des coups de pied à des cadavres de Bosniaques qu'il vient d'abattre. Et ça, je me souviens du choc absolu qu'avait été cette photo à l'époque. Je crois que parce que j'avais déjà vu des photos violentes dans les livres d'histoire. Et bien voilà, c'était pas dans un livre d'histoire. Et c'était, je voyais un garçon de mon âge, il devait avoir 23 ou 24 ans aussi, le paramilitaire. C'était pas loin dans l'espace, c'était pas loin dans le temps. Et la photographie nous mettait ça sous les yeux. Et c'est vraiment une expérience que j'ai pas oubliée.
Autre point, évidemment, dans ce livre qui se situe en grande partie en Corse, vous dressez un réquisitoire assez impitoyable contre les nationalistes corses. D'un lieu où l'on applaudit les revendications d'assassinat, on ne peut attendre que le pire.
Moi, je l'ai pas vécu. Enfin, je l'ai pas écrit comme un réquisitoire. Mais là encore...
En tout cas, on le reçoit comme ça.
J'ai discuté avec des gens en Corse qui étaient comme moi dans le mouvement nationaliste à la même époque et qui ne l'ont pas vu comme un réquisitoire. C'est pas non plus un éloge, parce que ce que je décris là encore, à mon avis, c'est entre 1979 et 1995 l'histoire d'un échec et d'une série de désillusions immense, hein, puisque au milieu des années 90, les différentes scissions du mouvement nationaliste ont conduit à un affrontement armé entre les deux branches du FLNC qui a fait beaucoup de morts. Et quand on est dans une bonne dizaine, et quand on est dans une société aussi petite que la Corse, où tout le monde connaît tout le monde, c'est pas des choses qui peuvent se passer sans laisser des traces et des cicatrices profondes. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu les choses et que j'y pense toujours avec une certaine souffrance. Et ça, c'est pas un réquisitoire, c'est une description de quelque chose qui tourne mal, et j'imagine pas que quelqu'un pourrait venir soutenir qu'en fait les choses n'ont pas mal tourné, parce qu'elles ont mal tourné.
Page 199, c'était à cause de leurs stupides cagoules, de leurs conférences de presse et de leurs armes, et de toute leur mythologie de merde, que ce pays tout entier vouait désormais un culte aux assassins. À cause d'eux, la capacité à donner la mort était devenue le seul étalon de la valeur humaine. Là, c'est bien Jérôme Ferrari qui
écrit ça,
qui s'exprime. Qui
Absolument, mais là, je pense que, y compris au sein du mouvement nationaliste, il y a des gens qui sont... parfaitement conscient que le FLNC, de mouvement politique, est devenu une sorte de figure mythique. Et moi, j'ai pu assister avec une espèce de dépolitisation de plus en plus forcenée de la société, que des gens étaient attirés par une imagerie qui a subi des évolutions pendant les années, mais qui est une puissance, donc une image, hein, et, qui est bien plus puissante que des convictions politiques. Et ça aussi, ça me paraît être un fait.
C'est aussi une espèce de dérive de la virilité que vous montrez avec qui se traduit d'ailleurs dans les rapports sexuels et amoureux d'Antonia avec l'un de ses chefs nationalistes.
On est à coup sûr dans une société méditerranéenne où la virilité, le rapport à la violence a de fait une certaine importance. C'est sûr.
Et puis alors, il y a un parallèle avec... Il y a ces rituels nationalistes, mais qui deviennent absolument ridicules et même dangereux, malfaisants, et en opposition aux rituels de cette messe de funérailles qui, évidemment, là, sont le versant positif de notre humanité.
J'avais pas pensé à ça, mais figurez-vous que vous avez absolument raison. Il y a le rituel le plus connu, c'était celui de la conférence de presse. Alors, si je me souviens bien, c'est pas des conférences de presse de temps en temps, et puis alors à un moment on est arrivé à une inflation absolument invraisemblable, notamment vers la fin des années 90, où il y avait en plus pas un seul mouvement clandestin, mais beaucoup de toute taille, et où il y avait des conférences de presse assez souvent, effectivement. Oui. C'était le mode d'expression obligé. Les rituels, donc.
Et puis, on en vient peut-être à ce qui est le cœur, vraiment, de votre œuvre, non seulement à travers ces mouvements nationalistes, mais aussi la guerre en ex-Yougoslavie, où se rendra Antonia. Finalement, vous tournez toujours autour du mal.
Ah oui, c'est absolument indéniable. Et d'ailleurs, c'est même philosophiquement, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus. Parce que... on n'en a jamais fini avec, et parce que c'est difficile d'en rendre compte, de le comprendre. Et là, j'ai essayé de voir comment ça se passe quand un pays entre en guerre aussi violemment et aussi rapidement que ça s'est passé en Yougoslavie. Alors, j'ai été vraiment énormément aidé par mon éditeur serbe, parce que je suis allé plusieurs fois à Belgrade. Il m'a fait rencontrer des gens qui avaient fait la guerre et qui décrivent tous cette espèce de mouvement continu où tout va bien et puis soudain on ouvre les yeux autour de soi et ça y est, c'est là. On est dans une situation qu'on aurait jugée complètement invraisemblable ou inimaginable à peine quelques semaines avant. Et c'est quelque chose d'assez effrayant pour moi.
Est-ce qu'on peut dire que, en refermant ce livre et au regard de la trajectoire d'Antonia, le mal a gagné ?
Le livre se clôt sur un passage où le prêtre retrouve un peu de son empathie et de sa bienveillance. Donc, il finit quand même plutôt sur une note positive. Et plutôt sur l'idée que le mal n'a pas tout à fait gagné.
Eh bien, on terminera là-dessus, ça me paraît une bonne chute. Jérôme Ferrari, à son image, publié chez Actes Sud. Merci.
Merci.